boomerang avec Matt Pokora. Ce matin, plus de 15 ans de carrière et un engouement populaire. Son Pyramide Tour, grande tournée, vient de débuter et il enchante vos enfants, vos ados, vos neveux, vos nièces ou même vous-même en secret. Nicolas, ça donne envie de l'interroger, M. Pokora. C'est parti. J'ai un doute. Et si j'ai un doute, c'est que je pense, et si je pense, c'est que je suis. Vous connaissez la formule cartésienne, cette démonstration implacable qui a fait nos cours de philosophie et qui est étrangement utilisée pour justifier toutes sortes de conspirations aujourd'hui. Il faut absolument douter. C'est ce qui fait de nous ce qu'on est. Alors c'est parti. Comment pouvez-vous être certain de ce que vous avancez? Il faut des preuves, des faits, des vérités. C'est très sain de douter. Et ça fait même partie de l'esprit français. Seulement voilà, plus cet argument est utilisé, plus j'ai un doute, moi. Vous me pardonnerez, après tout, c'est très sain de douter. Dans son discours de la méthode, le doute de Descartes n'est pas un doute sur ce qu'on lui raconte, mais un doute personnel, un doute sur lui-même. On doute d'abord de soi, et on a tendance à l'oublier, ça. Ce doute très intime, qui est en réalité la seule chose constitutive de l'existence et de la pensée. Le problème, c'est que quand on expose une conspiration, quand on entend dévoiler un complot, quand on se méfie de la parole des puissants, on a souvent une petite conviction derrière la tête. Le fait qu'on nous manipule, qu'on nous ment, ça c'est sûr. Et on oublie de douter de cette conviction-là. Si ça se trouve, il n'y en a pas de complot. Après tout, pourquoi pas? Ça manque souvent de doute, la conspiration. C'est pas très cartésien, non?
Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui doute-t-il encore? En plus de 15 ans de carrière, il a vendu des millions de disques, réuni des centaines de milliers de spectateurs au gré de tournées pharaoniques. Il vient de repartir sur les routes avec son Pyramide Tour, justement. Tu parles d'un engouement. Bonjour, M. Pokora.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous fait douter, vous?
L'entre-deux albums. C'est toujours là où viennent les doutes. C'est... comment se réinventer, comment surfer sur la vague, comment continuer d'intéresser.
Et c'est un moteur pour vous, le doute, justement?
Ouais, à fond, à fond. Je pense que c'est ce qui nous permet de nous bouger, en fait. C'est à ce moment-là où on se dit, faut que je me bouge. Et moi, y a l'entre-deux albums, et quand je regarde la nouvelle génération, je me dis, ah ouais, ils ont faim. Ils sont en avance sur nous au même âge et tout, et... si on veut rester dans la course, plus que dans les années 90, 80, 70, les années 2000, c'est vraiment une remise en question perpétuelle.
Mais alors du coup, se remettre en question, ça passe par quoi, chez vous, concrètement?
C'est de se dire, qu'est-ce que j'ai fait avant? Qu'est-ce que je suis capable de faire? Où est-ce que je suis capable d'aller? Comment je peux surprendre les gens? Moi, c'est vrai que ma démarche depuis le début, c'est toujours d'essayer de les emmener sur un terrain différent.
Musicalement.
J'aime beaucoup de choses différentes dans la musique. Je peux écouter un peu de tout, mais par contre, un truc qui me motive, c'est la performance scénique. Et du coup, je cherche toujours à des projets dans lesquels je vais pouvoir proposer visuellement aussi quelque chose de magique pour les gens qui viennent me voir en concert.
C'est vrai que ça varie énormément d'un album à l'autre. Là, je pense tout de suite à un album qui s'appelait MP3, un album produit par une pointure de l'industrie du rap américain, Timbaland, un album avec un certain nombre de titres en anglais, mais le public n'avait pas suivi. Pour quelle raison, à votre avis?
D'une part, je pense pour l'anglais. Déjà, je pense qu'il y a eu un problème d'identification, tout simplement, en radio, quelqu'un qui entendait cette chanson, impossible de se dire c'était Matt Pokora à l'époque, puisqu'on n'avait pas tous ces outils de communication, les chaînes YouTube, ça commençait à peine, c'était pas encore super développé, tout
et
ça.
Et les gens ne comprenaient pas.
Je pense que les gens n'ont pas identifié.
Et vous avez ressenti quoi?
J'étais quand même super déçu. En fait, il y a eu deux choses. Dans un premier temps, j'ai été déçu parce que certains médias sont empressés de communiquer sur les chiffres. Il s'est planté avec tous les producteurs qu'il avait, toutes les montagnes qu'on a faites avant de sortir cet album, machin. Et en fait, ce qui m'a déçu, c'est de me dire, j'ai 22 ans au moment où je sors l'album. J'ai 22 ans. Je viens de sortir un album produit par le plus gros producteur de la planète. Au moment où je travaillais avec lui, il était le plus grand producteur. Certes. C'était même avant Madonna. Et je me dis, je m'attendais à être encouragé à ce que les gens se disent « Ah, on est fiers, c'est le seul Européen !» Et à la place de ça, j'ai vu des articles disant « Ah, il s'est planté, il a été trop ambitieux. » Et du coup, je pense que mon ambition a été prise pour de la prétention.
Mais le public, Matt Pokora, est-ce que vous diriez que le public a toujours raison?
Le public a toujours raison, quoi qu'il arrive. Donc moi, j'ai cherché à me dire, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que dans la communication, c'était peut-être pas un peu trop? Est-ce que j'ai peut-être trop parlé de l'Amérique, de ces producteurs qui m'ont toujours fait rêver? Et du coup, ils ont peut-être pensé que l'anglais, c'était un peu une trahison pour eux. C'est de se dire, ah, ça y est, la France lui suffit plus, ou il chante plus en français, machin. Donc j'ai essayé de m'en remettre en question et je me suis posé les bonnes questions.
C'est ça la question que je vous pose en fait, c'est comment on fait pour le garder, son public, pour pas le décevoir tout en ne s'ennuyant pas soi-même, tout en se renouvelant?
Bah déjà c'est de le respecter, donc dans tout ce que je fais, j'essaie de montrer qu'il y a une évolution à chaque fois. Je vais chercher d'autres choses dans les textes aussi, je vais chercher d'autres thèmes. Et donc voilà, c'est ça aussi, c'est avoir le recul sur soi-même et se dire « Ah là, j'ai un point faible et il faut que je fasse appel à quelqu'un pour m'aider. »
Vous êtes un immense bosseur.
Je pense que il y a pas beaucoup de gens qui bossent autant que moi pour préparer mes concerts, mes albums, pour rester en forme, etc. Ça, c'est sûr. Mais voilà, j'ai été sportif, moi, toute ma vie. J'ai commencé avec le foot à haut niveau chez les jeunes. Mon père était professionnel. Il a joué à Metz, Bordeaux, Toulouse 3. Donc, il a une vraie carrière de sportif. Donc, j'ai été élevé comme ça. Et pour moi, c'est le mérite. Je me dis qu'à chaque fois que je m'entraîne le matin avant de venir à mes répètes, j'ai aussi une heure de coaching le matin avant de venir à mes répètes, ou même quand je suis en promo, j'ai toujours mon heure de coaching le matin. Et je me dis, certes, ça influe pas sur la musique, mais ça influe sur mon karma. Et moi, je crois au karma. Et je me dis, si j'envoie ces ondes le matin à dire « je me lève et je travaille et je sue et voilà, je me donne les moyens d'être en forme », mon karma va me le rendre.
Ça fait plus de 15 ans que le public vous a découvert, Matt Pokora, et en 15 ans, des chansons, il y en a eu. Mm-hmm. M. Pokora, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est d'abord un type qui se fait contrôler.
Elle me contrôle, et rythme mes pas. Si elle me frôle, oh non, je ne réponds plus de moi sur la dance floor. Écoute ma voix, si tu me frôles, alors je ne réponds plus de moi.
C'est aussi l'histoire d'un garçon qui collectionne les photos.
Tout ce qui me reste, c'est juste une photo de toi, juste une photo de toi, juste une photo de toi.
Un garçon qui parfois un peu le tournure.
Je ne veux plus que le monde tourne autour de toi. Je ne veux plus que le monde tourne autour de toi.
Un garçon qui se souvient aussi.
Cette année-là, le rock'n'roll venait d'ouvrir ses ailes. Dans mon coin, je chantais belle, belle, belle. Et le public aimait ça.
Cette année-là, c'était sur un album de reprise consacré à Claude François. Pourquoi lui, M. Pokora ?
Pourquoi lui ? Parce que, en fait, ce qui a éveillé ma curiosité, c'était une interview de Claude François Junior. Je crois que c'était en 2007 ou 2008. Je suis en promo, justement, pour mon album anglais en Belgique. Et la journaliste à la radio me dit « On a reçu un invité hier ». Et écoutez ce qu'il a dit sur vous. Et là, j'entends qu'elle dit « Alors, Claude François Junior, selon vous, aujourd'hui, dans le paysage musical français, et qui incarne le mieux la relève de ce qu'a laissé votre père ?» Et il répond du tac au tac, il dit « Pour moi, il y a Matt Pokora. » Parce qu'il fait attention aux tenues, des visuels, il danse, il chante. Et du coup, ça éveille ma curiosité.
Et vous avez dû vous interroger, qu'est-ce qu'il y a de Claude François dans votre musique ?
Ben en fait c'est ça, dans un premier temps, pour moi Claude François c'était mes parents, c'était les tubes que je connaissais, mais ça m'influençait pas musicalement. Et après, 2 ans après ou 3 ans après, il y a une émission où on doit reprendre des titres comme si c'était hier. C'était avec Charles Aznavour qui présentait avec Alexandra Sublet à l'époque. Et on est tous à l'Olympia. Et là, c'est le gratin, quoi. Il y a Patricia Cass, il y a Charles Aznavour,
ouais.
il y a Abdel Malik. Enfin, il y a tout le monde, toutes les grandes voix, Morane, Garou. Enfin, il y a toutes les grandes voix françaises et tout. Et moi, je me retrouve, je dis, bon, moi, je vais reprendre comme d'habitude.
OK.
Et là, je monte sur scène à l'Olympia, je me dis, là, je vais chanter comme d'habitude, là où Claude François, quelques décennies avant moi, a chanté cette chanson qui est super importante devant des gens qui l'ont côtoyé face à moi, avec Aznavour et tous les artistes qu'il avait côtoyés. Et là, je prends la mesure du truc et je chante comme j'ai jamais chanté. Je suis possédé, je transpire, je tremble et je sors de scène. Et il y a Catherine Ringer qui était là aussi et qui va voir l'éditeur de Claude François. Et mon manager était à côté à ce moment-là et dit « Qu'est-ce qu'il vient de nous faire, le petit, là ?» Elle dit, c'était fort, là, ce qui vient de se passer. Et à partir de là, je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire avec cette histoire et cette filiation, quoi.
Comment on fait pour parvenir toujours à s'inscrire dans l'air du temps, musicalement, en fin de compte, M. Pokora? Comment vous faites, vous, justement?
Bah, j'écoute beaucoup de choses, je regarde, je vais voir beaucoup de concerts, beaucoup de spectacles.
Sans jamais être dépendant des modes?
Non, après, moi, je sais que j'ai mon ADN première, qui est la musique plutôt pop urbaine. Michael Jackson dans les années 90, quand j'ai grandi, 80-90, puis après Usher et Timberlake, et c'est cette génération-là qui m'a influencé, avec laquelle j'ai grandi, et c'est les couleurs qui influencent ma musique. Donc, et là, ce que j'ai comme chance aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, quand j'ai commencé en 2004 et que j'arrivais avec mes baggy casquettes à l'envers et que je faisais de la musique urbaine en plateau télé en France, et
j'étais pour un l'émission ovni. Popstar.
Ouais, et j'étais un ovni. Parce que j'étais le seul à faire ça au milieu de... c'était Patrick Fiori, Patrick Bruel, Calogero, Kyo. C'était tout ça sur les prime time à l'époque. Julie Zenati, Hélène Segarra, c'était très variété française.
Et vous étiez
et
là avec
Coucheur. Et du coup, moi, j'étais là avec mes baggy, casquettes à l'envers. Je faisais Elle me contrôle avec des chorégraphies un peu hip-hop, tout ça. Et du coup, tout le monde se disait... Celui-là, ça va faire un album et puis c'est fini. Et ce qui est génial, la chance que j'ai aujourd'hui, c'est que mon courant musical, l'ADN même de ce que je fais, est devenu la pop d'aujourd'hui. C'est la musique pop d'aujourd'hui.
On se souvient. You remind me.
You remind me of a girl that I once knew. See your face whenever I
Quand est-ce que vous l'avez découvert, Usher, Matt Pokora ?
J'étais au collège, je pense que j'étais en cinquième, un truc comme ça. Et c'était son single You Make Me Wanna. Je pense que lui avait 16 ans à l'époque. Et j'ai vu une nouvelle version de Michael Jackson, quoi.
Ça a été un choc.
Ouais, parce qu'il y avait un mec qui avait nos codes du moment, avec des baggies justement, tout ça... basket,
alors,
baggy,
les
baggies,
casquette,
ouais, c'était les jeans larges parce que ouais, c'est plus trop à la mode maintenant. Et quoique ça revient avec Virgil Abloh, il en remet beaucoup dans les collections.
C'est même plus une question de mode là, c'est une question de traduction
ouais,
de terme,
voilà.
Quoi.
Et donc du coup, on voyait un mec de notre génération avec les codes de notre génération, mais danser, performer, chanter comme Michael avec.
Il paraît que le DVD du concert, vous le regardiez tous les week-ends.
Et tous les week-ends, à tel point que mon père connaissait les chansons d'Usher par cœur. Je regardais ses chorégraphies, sa manière de bouger.
Qu'est-ce qui vous a appris?
C'est cette attitude de toujours avoir une attitude un peu de super-héros sur scène, finalement.
Ce sont des gestes, en fait.
Ouais, des gestes, des postures, le torse, la manière de regarder le public, mais en même temps, de désamorcer ce truc un peu sacré de la scène avec le sourire, la petite attitude en regardant le public. Et c'est ce que j'aimais chez lui, c'est que le mec rigolait, faisait une blague et relâchait un peu la posture de super-héros.
C'est intéressant le corps chez vous, parce que la danse est absolument centrale. Quand est-ce que vous avez commencé à danser, M. Pokora ?
Alors, j'ai commencé à bouger, à danser quand j'avais 11, 12, 13 ans. Je me rappelle les booms qu'on faisait quand on était jeune.
Ah, c'était pas au conservatoire ?
Non,
moi, pas je vous imaginais en Juste au corps vert d'eau.
Ah non, désolé.
Quelle n'est pas ma surprise.
Ça, et honnêtement, j'aurais bien aimé, parce que je pense que j'aurais une posture encore plus jolie, parce que quand on commence par
la barre au sol, Matt, la barre au sol.
Ah ouais, mais c'est la base de tout, en fait. Et c'est vrai que j'aurais aimé, mais moi j'ai commencé comme ça, avec des amis, je faisais les trucs dans les booms, je faisais des chorégraphies, que je reprenais des Backstreet Boys à l'époque et ces groupes-là. Et puis après, mes vrais premiers cours de danse, finalement, c'était dans Popstar.
Ouais.
Et après, j'ai plus arrêté depuis 16 ans.
Ce qui était partout chez vous, dans votre imaginaire, vous le disiez, c'est le football. Pourquoi ouais. Ça n'a pas marché, le football ?
Le foot, quand j'avais 15-16 ans, moi je jouais à Strasbourg, en banlieue de Strasbourg, à Schiltigheim. Et j'ai Sedan à l'époque qui était en Ligue 1 à ce moment-là, en 2001-2002, qui un recruteur qui m'a fait venir à Sedan pour un essai. Et donc la grosse erreur que j'ai faite, d'où découle le fait que je m'entraîne tous les jours maintenant, c'est qu'en fait c'était pendant les vacances de Pâques. Et 10 jours avant, je suis parti avec le CE du travail de ma mère dans un club de vacances, je crois que c'était en Sicile. Et mon père m'avait dit: tu t'entraînes, tu cours, tu suis le programme et tout. 15 ans, on pense qu'on est invincible, qu'il n'y a pas besoin de s'entraîner. On ne prend pas la mesure de ce que c'est que s'entraîner pour être prêt le week-end. Et j'ai rien fait pendant 8 jours.
Vous le regrettez, j'ai l'impression.
Ouais, à fond. Et du coup, je suis allé à l'essai sans m'être entraîné pendant pratiquement 15 jours. Mais je me suis retrouvé avec des mecs qui, eux, avaient continué de s'entraîner. Et du coup, en fait, j'étais à la rue physiquement.
À vous entendre, il y a toujours un lien très fort entre le sportif que vous étiez et l'artiste que vous êtes aujourd'hui.
À fond, parce qu'en fait, de là, je me suis dit, j'étais pas prêt. Et depuis ce jour-là, je me suis juré que je serais toujours prêt, quoi qu'il arrive, physiquement.
C'est le goût de l'effort, en fait.
Le goût de l'effort. Et c'est pour ça que je m'entraîne tout le temps, même quand je suis pas en tournée, parce que je me dis, si je dois monter sur scène demain, je suis prêt.
Ça vous arrive quand même de plus en pouvoir, d'être épuisé?
D'être épuisé, ça, je l'ai été, c'est pour ça que j'ai quitté tous les réseaux sociaux pendant un an. et que je me suis arrêté, que je me suis éclipsé à Los Angeles pendant un an, parce que enchaîner la promo, les tournées, les émissions The Voice où j'étais coach des kids et des adultes en même temps, donc c'est 60 jours de tournage.
Il faut dire non, Matt Pokora aussi.
Et en même temps, je prenais du plaisir, donc moi, je me rends pas compte. Et au bout d'un moment, je commençais vraiment à être fatigué.
Au point de plus avoir de plaisir à chanter.
Je prenais moins de plaisir, ouais. Même si le fait de recevoir l'adrénaline du public, ça me sort toujours de ce petit coup de mou dans lequel je peux être la journée sur les dernières dates. Mais ouais, au point de me dire, bon là, je stop. Mais très vite, au bout de 3 mois, j'étais dans mon salon à me dire, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Et allez, studio, faut que je ressorte un album pour pouvoir repartir en tournée, quoi.
En fin de compte, faire ce que vous faites, quel sens est-ce que ça a pour vous?
Ce que je fais et ce qu'on fait, je pense, les artistes, les sportifs aussi, en quelque sorte, c'est un mot qui n'existe pas dans le dictionnaire français, mais qui existe dans le dictionnaire anglais, c'est entertainer, divertisseur.
C'est beau, divertisseur.
Et moi, j'aimerais que ce mot existe en France.
Eh ben, on l'invente.
Je suis un divertisseur. Et en fait, c'est le sens de ce que je fais pour moi. Quand je monte sur scène et que je vois les gens sourire, leurs yeux briller, je les vois chanter, danser, heureux, communier. Alors que peut-être qu'ils ont des soucis dans leur vie de tous les jours, ils étaient au boulot, ça se passe pas bien, etc. Je me dis que pendant 2 heures, j'ai la chance de les mettre dans une bulle et de leur faire oublier leurs soucis du quotidien. Et puis deuxièmement, et c'est même le premièrement en vrai, quand je rentre dans une chambre d'hôpital d'un gamin malade, que je le vois me regarder avec le sourire et que pendant 5-10 minutes que je passe dans la chambre, il oublie tout, il est heureux, il sourit. Je me dis, ben voilà, ça a un sens ce que je fais, je suis un divertisseur. J'arrive dans la chambre de ce gamin pendant 5-10 minutes, je le fais sourire, il oublie ses problèmes et ça, c'est une grosse victoire pour moi.
Vous savez quoi, on va se divertir. Alors, on va reparler de tout ça juste après. Les Planètes, un extrait de votre dernier album Pyramide, un titre, je préviens les auditeurs, collé serré ta peau contre ma peau. Vous êtes prévenus, vous êtes sur France Inter avec M. Pokora, vous écoutez Boomerang et c'est très très chaud.
Seul dans mon monde, 4h du mat, loin des flashs, 207 chambres d'hôtel, je t'appelle mais tu décroches pas. Seul sur la route, entre mes rêves et mes doutes, au milieu de la piste de danse, dernier verre et je pense à toi. Un shot, je pense à toi. Deux shots, je pense à toi. Trois shots, je pense à toi. Quand je danse, quand tu danses, les planètes tournent tout autour. Pardonne-moi l'indifférence, je reviens près au lever du jour. Ta peau contre ma peau, laisse ta peau contre ma peau, laisse-moi donner le tempo, laisse ta peau. Ta peau contre ma peau, ta peau contre ma peau, laisse ta peau contre ma peau, laisse-moi donner le tempo, laisse ta peau contre ma peau. Est-ce qu'on s'aime, est-ce qu'on s'oublie? Une nuit de plus, solitude dans le tourbus, aucune muse ne m'amuse. Je t'appelle mais tu décroches pas. Un shot, je pense à toi. Deux shots, je pense à toi. Trois shots, je pense à toi. Quand je danse. Contre ma peau, laisse ta peau contre ma peau, laisse-moi donner le tempo, laisse ta peau contre ma peau, ta peau contre ma peau, laisse ta peau contre ma peau, laisse-moi donner le tempo, laisse ta peau contre ma peau. Est-ce qu'on s'aime, est-ce qu'on s'oublie?
Sur France Inter. Augustin Trapenard.
Bah, sa peau, parlons-en de sa peau. Tiens, il est pour ainsi dire tatoué de la tête aux pieds. On est quelque part entre David Beckham, Popeye et Pocky, le hérisson star d'Instagram, le cheveu à la brosse, l'œil bleu intergalactique, le muscle saillant, la jambe de gazelle, avec son t-shirt en velours pratiquement orange où il est écrit « Have a good one », ce qui veut dire bonne journée.
Bonne journée, ouais, en gros, passer un bon moment, quoi. Passer un bon moment, que ce soit soir, journée, ça s'adapte aux deux.
Et son treillis, ce matin, M. Pokora, invité de Boomang, pour sa tournée qui vient de démarrer, plus d'une quarantaine de dates, ce qui est quand même pas mal. Vocalement, comment est-ce que vous faites pour tenir, tiens?
Bah déjà, je suis pas dans le... Je voyage pas avec les équipes pour éviter de parler, de rigoler, de faire le con, etc. Et du coup, je voyage dans mon van à part.
Pour le sportif que vous êtes, la voix, c'est un muscle?
Ouais, la voix, c'est un muscle. Hein. La voix, c'est un muscle. Alors, au bout de quelques dates, ben le muscle, il est plus endurant. Donc, la voix fatigue moins vite. Surtout, c'est le temps de repos, en fait. Beaucoup s'hydrater les cordes vocales. Du coup, ouais, je préserve cette voix et puis je la travaille avant la tournée, toujours. C'est comme une préparation physique d'avant-saison, en fait.
Et quand est-ce que vous avez commencé à chanter, en fin de compte?
Bon, j'imitais Michael, donc forcément, je fredonnais quand j'avais 5, 6, 7, 8
c'est
ans.
C'est pas le plus simple à imiter.
Genre, le Any Are You OK ressemblait à Et après, j'ai appris l'anglais.
Mais, on dirait coup, Michael Jackson ouais. Japonais,
mais du coup, ouais, non, j'ai commencé vraiment, je pense, à 11, 12 ans. Et je me rappelle, à l'époque, il y avait les Poetic Lovers qui chantaient super bien.
Ne m'en parlez pas.
Et du coup, j'essayais de chanter comme eux, sur leur album.
C'est ça que vous chantiez dans la voiture de vos parents pendant votre goûter ou lorsque vous faisiez votre voix? Ouais. Les Poetic Lovers.
Les Poetic Lovers et les Backstreet Boys, puisque j'aimais beaucoup les Backstreet Boys quand j'avais 11-12 ans. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à chanter. Et je me rappelle les fêtes de fin d'année ou les booms où j'allais en colo, moi, l'été. Et en camp de vacances, il y avait chaque fin de semaine, il y avait toujours un spectacle, une boom ou un truc. Et à chaque fois, je proposais une chanson, je faisais un truc, une représentation.
Ça veut dire que vous aviez déjà des rêves de stade, que ce soit pour le ouais. football ou pour la musique?
Toujours. En fait, j'ai toujours su que j'allais avoir un destin hors du commun parce que je m'inquiétais pas de l'école, en fait. Je devrais pas dire ça, mais je me suis toujours dit, ça va aller. Et quand je revenais avec des mauvaises moyennes, des mauvaises notes, etc., je disais à ma mère, mais t'inquiète pas, ça va aller. Mais j'étais plus dans ma tête proche d'être professionnel de foot que chanteur à ce moment-là. Je me rappelle même sur une émission récemment, une amie d'enfance, elle est venue avec son agenda de 99-2000 et je lui avais signé un autographe en disant « garde-le ». Et c'est ça qui est dingue, quoi. Et j'ai toujours senti que j'allais vivre quelque chose de spécial.
Et quand vous êtes sur scène aujourd'hui, quel genre de match est-ce que vous jouez?
Le truc qui est dans ma tête à chaque fois avant de monter sur scène, et c'est ce que je dis dans le cercle, quand je réunis mes équipes avant de monter sur scène, je leur dis, là dans la salle, il y a des gens qui ont sacrifié leur sortie du mois, ou leur fringue du mois, leurs autres loisirs du mois pour venir payer leurs billets et passer un moment avec nous. Donc, on se doit de ne pas les décevoir et on se doit de leur vendre du rêve pendant 2 heures, de les mettre dans une bulle. Donc moi, mon combat, c'est ça, c'est ne jamais décevoir. Et je fais ça pour les gens, en fait. Ce qui me rend heureux, c'est de voir les gens heureux.
Ça vous arrive d'avoir peur?
Ouais.
Juste avant deux de monter albums. Sur scène.
Alors non, avant de monter sur scène, moi je suis comme Barthez avant les pénalties en 98, quoi. Je rigole, je vais jouer à la console avec des danseurs, des musiciens, des techniciens.
Il y a de l'adrénaline quand même, Matt Pokora.
Je suis comme un lion en cage, je suis comme un sprinter avant de foncer, quoi. Genre libérez-moi. Mais je suis pas stressé. Alors je suis pas du tout stressé, j'ai pas d'angoisse. Je suis détendu et j'ai envie d'y aller, quoi.
Le succès, Matt Pokora, il a été immédiat, il a été violent. Mm-hmm. Quand on a 17 ans, qu'on gagne une émission populaire comme Popstars, qu'on est propulsé dans l'industrie du disque, qu'on se retrouve sur scène avec le groupe Link Up formé pour l'occasion, comment ça se passe dans votre tête à vous? Vous vous souvenez dans quel état vous étiez?
Bah tout était nouveau pour moi. Ce qui était incroyable, c'est que Et souvent, quand on me demande « qu'est-ce que tu aimerais revivre comme période de ta vie ?», je dirais le moment où j'ai gagné Popstar et que ma vie a basculé.
Mais qu'est-ce que vous avez découvert à ce moment-là?
J'ai découvert qu'il y avait des gens autour de nous pour nous aider pour tout. Déjà, ça qui est incroyable, on me demandait ce que je voulais manger, ce que je voulais lire dans le train, donc pour aller me chercher des magazines, c'était un truc de fou pour
tout
moi.
Tout était facile.
Tout était facile. Et en fait, vu que j'ai toujours eu cette mentalité de sportif, de champion en quelque sorte, j'ai très vite compris qu'il allait falloir que je bosse dans l'ombre pour préparer la suite, si je voulais m'envoler de mes propres ailes, parce que très vite j'ai su que je n'allais pas rester dans le groupe parce que j'étais pas épanoui artistique.
Et puis l'industrie du disque, c'est pas n'importe quelle industrie, elle peut être violente.
Le disque, ouais, c'est violent. Et puis quand on a 17 ans comme ça et on peut être un peu déboussolé, mais moi j'ai toujours eu un cap, j'ai toujours eu déjà une bonne hygiène de vie, toujours été bien entouré, et je pense que j'ai été clairvoyant. Je savais ce que je voulais, je savais où je voulais aller. Et il n'y a rien qui pouvait me faire sortir de mon chemin.
C'est ça qui a fait la différence par rapport aux autres.
Je pense qu'en fait, j'ai très vite compris quels gens étaient bons autour de moi, pas bons, vers qui fallait que j'aille, comment fallait que je m'entoure. Et je pense que ça, c'est primordial dans une carrière. Il y a tellement de jeunes talentueux, mais qui sont mal entourés. Que ce soit dans la musique, dans le sport, enfin, on en a vu des exemples mal entourés qui se sont foutus
en l'air.
Mais
c'est ça, vous, quand vous êtes jury de The Voice, par exemple, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes?
Ah bah, moi, je prends l'exemple de par exemple, de Lisandro, qui avait le même âge que moi quand il a gagné The Voice. Que quand moi j'ai gagné Popstar, et voilà, moi c'était de lui dire voilà, c'est s'entourer comme ça, faut que tu bosses. Pendant l'émission, il avait pris un peu de poids. Je lui dis, tu te fous de moi, t'as 17 ans là, en 5 mois, t'as déjà pris un peu de poids, alors que tu veux danser, chanter, tu veux performer. Et je dis, si tu veux aller dans cette branche-là, faut que t'aies une hygiène de vie comme Cristiano Ronaldo dans son domaine. Je dis, faut que tu fasses du sport, faut que tu t'entretiennes, il n'y a pas de secret. Je dis, les performeurs, on est la catégorie dans la musique qui bossent le plus. Je dis, donc, il faut que tu bosses, que tu t'entoures bien, que t'aies une bonne hygiène de vie et surtout, faut que tu restes humble, que tu respectes les gens, peu importe où tu ailles, de la femme de ménage au directeur de la chaîne sur laquelle tu vas aller. Il dit, faut que tu respectes tout le monde parce que tous les gens que tu vas croiser en montant, tu les recroiseras au moment où tu auras une descente.
Vous le sentez quand même que ce n'est pas la même génération?
Non, c'est pas la même génération.
Qu'est-ce qui change?
Ils sont en avance sur nous techniquement.
Ils sont nés avec un smartphone dans la main.
Ils sont nés avec un smartphone, avec les vidéos, les tutos et tout ça pour apprendre. Ils posent même mieux que nous déjà en photo dès leur première séance photo.
Ne m'en parlez pas.
Tout ça en vidéo. Enfin, ils sont à l'aise dans tout déjà. Mais je trouve que à trop regarder YouTube et toutes ces vidéos, en fait, on perd un peu de personnalité. Dans sa globalité, hein, je dis après, bien sûr, il y a des Angèles, il y a des machins, c'est génial, j'adore, ils ont des univers vraiment, vraiment top. Mais je pense que dans un concours de chant, par exemple, comme The Voice, il y a un peu trop de mimétisme. Et je pense que du coup, vu que tout est accessible facilement, j'ai l'impression qu'ils ne prennent pas la mesure du chemin à parcourir pour y arriver et pour rester là-haut une fois qu'on y est.
Vous n'aimez pas la facilité, vous?
J'aime pas ça. Ben, en fait, je reviens toujours au sport, hein, mais la semaine, fallait se battre pour avoir sa place. Et puis, fallait pas piquer la place de celui qui était à son poste. Parce que moi, j'ai jamais été dans la mentalité de piquer sa place, mais de prendre la mienne. Et en fait, c'est ça, dans la musique, je pense comme ça aussi. Je dis, c'est pas quelqu'un qui me piquera ma place. C'est quelqu'un qui la prendra parce que moi, j'aurais pas assez bossé pour la garder.
Mais il paraît que vous ne voulez pas être chanteur toute votre vie.
Parce que c'est difficile d'être dans une catégorie de chanteurs où ça a toujours été très physique pour moi, tout ce que j'ai fait, et de me dire qu'à un moment, le corps, forcément, c'est comme un sportif. Il y a un moment, à partir de 35 ans, c'est le déclin physiquement,
mais
les douleurs, la récupération. Honnêtement, je pense que je pourrais arrêter. Mais après, il va falloir que je me réinvente parce que je me vois pas danser jusqu'à 45 ans et tout ça, entouré de jeunes danseurs de 25 ans, ça veut plus
et
rien dire.
Et cela dit, moi, je vous crois pas. Je vous crois pas, je pense que vous allez continuer. Vous savez pourquoi? Bah, parce qu'à chaque fois qu'on nous fait une annonce d'adieu, on finit par nous faire une Anna Mouskouri. C'est-à-dire par revenir, en fait.
comme Jay-Z aussi.
Bah, c'est un problème. Années, on la connaît, l'histoire. Vous feriez quoi, de toute façon, si vous arrêtiez la chanson?
Là, j'ai mis un pied à l'étrier, c'est la comédie. Je fais mes premiers pas d'acteur dans un téléfilm que j'ai tourné avec Muriel Robin, qui tourne autour de la maladie d'Alzheimer.
Et vous retrouvez le goût de
ouais,
vos débuts?
En fait, j'adore parce que là, je reprends tout à zéro. Dans le sens où ben je suis tout en bas de l'échelle et je trouve ça excitant de voir en fait toute la marge qu'il y a au-dessus de moi et de me dire allez on y va, on bosse, on travaille, on apprend les textes, je revois des coachs d'acting, j'écoute le réalisateur, je suis à l'écoute de tout et de tout le monde, j'observe les comédiens à qui je donne la réplique, je me dis ah ok la rythmique de leur ok d'accord tout ça comment ils sont entre les prises, comment ils gèrent le temps et tout ça me passionne, donc je pense que ça pourrait combler un grand vide laissé par la scène. Après, cette adrénaline, c'est quand même ça le mystère, c'est de se dire est-ce que je serais capable de vivre sans cette adrénaline de la scène. Pour l'instant, je sais pas. Pour l'instant, non. Je suis plus Goldman que Johnny, je pense. Je parle dans ma vision des choses, c'est-à-dire de choisir au moment où je m'arrête, de me dire c'est maintenant. Et je préfère sortir là et laisser cette image-là que de me dire là je sens que peut-être je vais être sur le déclin et qu'il y a un truc. Donc je pense que je serais capable de m'arrêter au moment où je sentirais que c'est plus trop ça.
Pour l'instant, on est encore sur la chanson M Pokora. C'est pas une chanson de Nana Mouskouri que vous avez choisi de reprendre à ce micro ce matin, mais un titre de Rihanna, qui a bien y réfléchir à plus d'un point commun avec notre bien-aimée Nana. Cela dit, vous êtes accompagné de votre guitariste Hailey, qui nous a rejoint. Ce titre, c'est Love on the Brain. Pourquoi ce titre?
Parce que c'est un peu torturé, c'est un peu, c'est Love on the Brain, c'est genre tu joues avec mon cerveau, quoi. Et
qui vous torture.
Et ouais, et de toute façon, j'aime les chansons, quand elles sont un peu torturées, j'aime les chansons d'amour un peu tristes, j'aime les trucs un peu torturés, je trouve ça. Et puis je trouve ça tellement proche de la réalité, puisqu'en l'amour c'est un combat au quotidien, c'est pas si facile que ça. Il y a plusieurs, l'amour évolue avec les années, et je pense que voilà, il y a la passion des premiers mois ou des premières années, et puis après il faut trouver une autre manière d'aimer et pour rester avec quelqu'un. Et je trouve que c'est très cérébral, l'amour, finalement. C'est pas que du lâcher prise. Et moi j'aime ce côté cérébral, et Love on the Brain, voilà pourquoi.
Soyons cérébraux. Comme ça aussi, merci. Matt Pokora qui chante Rihanna, accompagné par Hailey à la guitare ce matin. C'est dans Boomerang exclusivement. Merci d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que le Pyramide Tour, c'est en ce moment dans toute la France, de Toulouse à Caen, en passant par Saint-Etienne, Limoges, Tours, Le Mans, Marseille, sans oublier un Bercy, Accor Hôtel Arena, le 26 novembre et le 14 mars. Tout de suite, les médias.